France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur les sondages à 4 jours du premier tour de la présidentielle. Il continue à pleuvoir sur nous, parfois plusieurs fois par jour. Il montre une indécision du corps électoral dont on se demande s'ils sont le reflet ou la cause. Alors comment lire ces sondages? Comment sont-ils produits? Quelle confiance leur accorder? On va regarder toutes ces questions de près jusqu'à 20h. Regardez aussi la palette qui va de l'abstention possible à l'indécision. Toutes les formes de vote, de conviction, utiles, stratèges. Il y en a de nombreux. Soyez les bienvenus.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr, 01 45 24 7000 pour intervenir au standard d'Inter. Anne, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Voilà, donc ma question était la suivante. Je pense que l'écho et la puissance des sondages actuellement me semblent liés à l'incertitude du vote. On n'a jamais autant entendu parler de sondage quand on était dans une situation de duel, voire de tiercé. Et là, le fait du quartet gagnant, ou enfin potentiellement gagnant, fait que je pense qu'on écoute de plus en plus les sondages.
Merci Anne pour cette intervention qu'on a eu du mal à suivre. La liaison n'était pas tout à fait bonne. Est-ce que l'écho du sondage n'est pas décuplé par l'incertitude des votes? Voilà l'idée force de cette première intervention. Jean-Yves Dormagin, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier 1. Frédéric Dabi, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général adjoint de l'IFOP. Qui veut répondre alors sur l'écho des sondages et l'incertitude des votes? Allez-y Frédéric Dabi.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sondages, on ne peut pas ne pas être d'accord avec votre auditrice. Surtout l'IFOP est coupable dans le sens où depuis la présidentielle de 2012, nous avons mis en place un rolling, c'est-à-dire une enquête quotidienne. Chaque jour, l'IFOP sort un rapport de force électorale. Mais également, c'est vrai que l'intérêt pour les enquêtes d'opinion est bien sûr très fortement indexé sur cette situation jamais vue sous la Ve République, où à l'exception de 2002, dès février-mars, le match à deux, l'affiche du second tour était quand même largement anticipée. Là, on est plutôt sur un match à trois, voire un match à quatre. Jamais l'écart entre le premier éventuel Emmanuel Macron et le quatrième Jean-Luc Mélenchon dans notre rolling du soir n'a été aussi ténu. Il y a entre 4 et 4 points et demi. Ça montre aussi, ça entre en résonance avec cette présidentielle qui s'inscrit dans aucun canon traditionnel de la Ve République. Pas de bipolarisation, pas de sortant et de propos liés au bilan du quinquennat écoulé, atténuation du clivage gauche-droite qui fait que à 4 jours du vote, peut-être va se produire un double 21 avril ou un 42 avril, à savoir la double élimination du candidat du PS et du candidat du parti de droite, les Républicains. Et puis vous parliez de l'incertitude. L'incertitude, elle est aussi sur la participation. Aujourd'hui, nous mesurons une abstention, c'est un comportement très difficile à déterminer, je serai prudent là-dessus, mais une abstention qui serait peut-être équivalente ou supérieure à celle du 21 avril 2002 où il y avait eu 28% d'abstention.
Jean-Yves Dormagin.
Oui, ce que je crois comprendre de la question de l'auditrice, c'est que dans cette situation donc, où les électeurs sont indécis, s'interrogent sur le choix qu'ils vont faire dimanche prochain, les sondages prennent une place encore plus importante parce qu'ils nourrissent un vote utile ou un vote stratégique. Et donc un certain nombre d'entre eux, à gauche, peut-être à droite, sans doute plus à gauche, on y reviendra, se détermineront en fonction des dernières études et voteront pour le candidat qui leur paraîtra peut-être le plus à même d'empêcher un second tour, je parle là des électeurs de gauche, Fillon-Le Pen. Et donc de ce point de vue-là, on le comprend bien, l'importance des sondages devient cruciale. Et on est face à quelque chose qui relève tout simplement d'un enjeu démocratique. Ces enquêtes sont-elles fiables, compte tenu de la responsabilité qu'elles pourraient avoir dans le choix d'un certain nombre d'électeurs indécis? On dit aujourd'hui qu'un quart des électeurs sont indécis, c'est peut-être encore plus que ça. Un électorat qui est fluide, qui est mobile et qui se prononce pour une part. On a évoqué le 21 avril 2002, pour une part en fonction des enquêtes. On sait sans doute, enfin en tout cas on peut imaginer par hypothèse que si le 21 avril 2002, ou plus exactement donc le 19 avril 2002, Lionel Jospin avait été dépassé par Jean-Marie Le Pen. Si Jean-Marie Le Pen avait été placé second dans les sondages, probablement que Lionel Jospin se serait retrouvé au second tour, probablement par hypothèse.
Mais ces enquêtes sont-elles fiables? Vous avez posé la question, Jean-Yves Dormagin. Commençons à y répondre, parce que je pense qu'on n'aura pas assez de 35 minutes pour en faire le tour.
ces enquêtes, elles sont, j'ai envie de dire, partiellement fiables. C'est-à-dire que les sondages mesurent quelque chose. Il ne s'agit pas de le contester, bien évidemment. D'abord, c'est toujours un peu difficile de dire les sondages, les instituts de sondage. Je crois qu'ils sont inégaux, de qualité inégale, faits avec un sérieux inégal. Alors, vous m'avez invité ce soir, d'une certaine manière, j'en suis ravi. Ça rend l'échange sans doute plus intéressant, peut-être un peu plus compliqué aussi, avec quelqu'un qui représente un institut, je crois, très sérieux, qui a une tradition ancienne, qui fait les choses avec qualité. On y reviendra. Je suis pas sûr que ce soit vrai également de tous ses concurrents. On pourrait en discuter, mais surtout... ce que je voudrais dire pour commencer, pour ouvrir la discussion, c'est que ces sondages sont moins précis qu'on ne le croit. Voilà. C'est ça sur quoi je voudrais moi insister, c'est-à-dire qu'ils mesurent quelque chose, ils mesurent des rapports de force, ils mesurent des tendances assez bien, on va dire, dans leur globalité. Mais en revanche, moi, je conteste la précision revendiquée en général,
et même les 3% de 18,5, les 19,
même les 3% de marge d'erreur, si vous voulez, j'en doute. Personnellement, j'en doute, et j'en doute pour tout un tas de raisons.
Expliquez-nous, vous doutez de quoi dans la fameuse marge d'erreur? Qu'elle existe, qu'elle soit si étroite, qu'elle est plus grande?
Déjà, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que 3%, en fait, ça dépend du score enregistré. La marge d'erreur n'est pas la même quand on mesure quelqu'un à 50%, à 1%, à 20%,
etc. La taille de l'échantillon impacte
la marge d'erreur. Ça dépend de la taille de l'échantillon. Alors aujourd'hui, on a des online, parfois, sur 10, 15, 20 000 personnes. Normalement, il ne devrait pas y avoir 3% de marge d'erreur, par exemple. Oui, bon, déjà, voilà. Mais je ne voudrais pas rentrer dans des points qui sont trop techniques. Pour dire les choses simplement, les échantillons ne sont pas tout à fait représentatifs.
Ah bon?
Non, enfin, on y reviendra peut-être dans la discussion. Ouais. Les échantillons ne sont pas tout à fait représentatifs pour tout un tas de raisons. Les sondés ne disent pas tout à fait la vérité, ou pas toujours en tous les cas. Et ensuite, on nous explique qu'ils sont très indécis et qu'ils peuvent changer d'avis presque à tout moment. Alors si vous voulez, tout ça combiné, évidemment, ça altère un peu le caractère prédictif de ces études. Et alors je reviens à mon propos liminaire. Si on pense que l'élection présidentielle, tout particulièrement aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est quand même très important, un moment assez grave, avec des candidats qui portent des propositions très différentes, des projets de société très différents, et on se dit que peut-être les dernières études publiées, avec toute l'imprécision que je viens de souligner, vont décider finalement du futur président de la République française. C'est quand même quelque chose qui mérite réflexion et qui interroge, je crois.
Frédéric Dabi, et puis on retourne au standard.
Ce qui vient d'être dit par Jean-Yves Dormagen, je suis plutôt d'accord avec lui sur le statut du sondage. Le sondage n'est pas là pour donner le résultat de l'élection présidentielle. Il n'a pas cette vocation, il n'a pas cette prédiction. C'est d'abord une information, une indication des rapports de force électorale, et on l'écrit noir sur blanc sur tous les rapports de l'IFOP qui sont « tout sondage publié est accessible ». En ligne sur les sites internet des différents instituts. Merci à Jean-Yves Dormagen de séparer de bon grain et d'ivraie. C'est vrai que l'IFOP, nous travaillons énormément sur les échantillons. Bien sûr, il y a un vrai enjeu de faire en sorte qu'un échantillon représentatif, on est en ce moment dans notre ligne à 3000 personnes interrogées pour chaque vague publiée, coïncide le plus possible avec la population française. Et c'est vrai, on ne peut plus se contenter des quotas traditionnels, sexe, âge, profession, région et catégorie d'agglomération. Nous avons rajouté depuis très longtemps le niveau de diplôme. On sait que moins on est diplômé, moins on aura envie de répondre à une enquête d'opinion. C'est, comme on disait pour les États-Unis, les petits blancs qui ne répondent pas au sondage. Nous avons travaillé aussi sur la catégorie des retraités, qui est une catégorie extrêmement hétérogène, dans laquelle, souvent, comme dans les sondages, il y a plus de diplômés que la moyenne si on ne suit pas ce quota. Il y a plus de retraités issus des catégories moyennes supérieures que des catégories populaires. Alors, là où je suis moins d'accord avec lui, sur les sondés, disent-ils la vérité? Honnêtement, je n'en sais rien et personne ne peut le dire. On a quelques indications qui permettent de dire que ils ne mentent pas systématiquement et les comportements stratèges sont réels sur une élection très très serrée où il n'y a pas un vote utile, mais une polyphonie, une polysémie de votes utiles. Le vote utile Fillon pour éviter Mélenchon, le vote utile Macron pour éviter Fillon-Le Pen, etc. Quand on regarde la bonne restitution des votes anciens, qui était un vrai problème lorsque les enquêtes étaient menées, je dirais pas par téléphone ni par Internet, lorsque l'enquête était menée avec des enquêteurs, où on ne reconnaissait pas, on n'avouait pas son vote, par exemple, pour le Front National. Il y avait une surreprésentation des votes de gauche, comme à une époque, il y avait une surreprésentation du vote communiste. Depuis qu'on est passé à des enquêtes sans enquêteurs, et je trouve qu'il ne faut pas être sur une bataille d'Hernani entre le téléphone et les enquêtes en ligne. Nous continuons à faire des enquêtes téléphoniques, mais en ligne, il n'y a pas d'enquêteurs. Il y a une plus grande sincérité des votes. Mmh. Maintenant, dernier point pour ne pas monopoliser la parole.
Oui, les auditeurs sont très nombreux ce soir.
La question de l'influence des sondages, elle me fait relativement sourire. L'influence, elle est partout. Et je pense que ce serait assez injuste de mettre seulement le doigt sur l'influence des sondages. En 2012, l'IFOP a réalisé une enquête sur les sondages.
Sondage sur les sondages.
C'est le serpent qui se mordait la queue. Nous demandons à des électeurs français, diriez-vous que les sondages influencent le vote des électeurs français? Oui, 75%. 75%. Quelques secondes après, quelques questions après, nous demandons, et diriez-vous que ces sondages électoraux influencent votre propre vote? Oui, 13%. L'influence, c'est toujours les autres.
Jacques, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous.
Bienvenue.
Merci à vous.
Nous vous écoutons.
Je suis un grand sceptique sur les sondages. Mmh. Et je vais vous expliquer en 5 secondes pourquoi. Parce que je pense que c'est un cliché pris à un moment donné, dans un temps donné, et vous en parlez, et ce n'est pas un reproche, 48 heures après, et il n'est plus valable. Et en fait, si vous voulez, je fais la même différence vis-à-vis du sondage qu'entre un Polaroid et un cliché photo. Un cliché photo, vous le gardez dans un blog, vous le retrouvez régulièrement. Un Polaroid, petit à petit, s'efface. Mmh. Et je pense que le sondage, c'est le Polaroid. C'est-à-dire, sans tenir compte de l'état d'esprit des gens, etc., on les interroge sur un sujet précis. Point.
Et ça a une durée de vie extrêmement limitée. Comme vous le dites, le sondage du matin n'est plus valable le soir. Merci Jacques pour cette question, pour ces images aussi. Jean-Yves Dormagin, comment vous y réagissez? Est-ce qu'ils sont même fiables à l'instant T? Parce qu'on dit c'est une photo à l'instant T. Est-ce que c'est encore le cas?
Ah ben, pour prolonger l'image de notre auditeur, que je partage assez largement, je rajouterais qu'en plus, la photo n'est pas tout à fait bien cadrée. Alors vous avez effectivement une partie du paysage ou une partie du portrait que vous vouliez faire, mais il en manque aussi une partie. Alors pourquoi elle n'est pas très bien cadrée? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que vous avez des segments de la population que vous arrivez très difficilement à atteindre par ces enquêtes, par les sondages. Il y a des segments, il y a des morceaux de la population, il y a des parties de l'électorat qui échappent. Alors lesquels? Les plus âgés. Quand vous regardez, aujourd'hui en France, il faut le savoir, l'électorat est de plus en plus âgé. C'est donc un enjeu très important. Très âgé même, puisque lors de la dernière présidentielle, 10% des électeurs avaient plus de 80 ans. Et c'est un âge... C'est considérable. C'est considérable et ça va en augmentant. Donc, vous avez donc ces 10% par exemple d'électeurs qui ont plus de 80 ans, ben, ils sont quasiment totalement absents des échantillons de la plupart des sondeurs. Je vois mon ami qui s'impatiente de me répondre. De la plupart des sondeurs. Et le phénomène est, à mon avis, encore aggravé. Donc, j'ai étudié des sondages sur une dizaine d'années, des échantillons. Encore aggravé aujourd'hui avec les panels online. On s'en doute, il y a très peu de plus de 80 ans dans ces panels sur Internet. Donc, par exemple, là, on a 10% de l'électorat qui quasiment disparaît. Moi, j'ai vu des rolling. J'ai vu des échantillons des quotidiens, ceux qui alimentent les chaînes d'infos quotidiens, etc. Où il n'y a quasiment pas d'électeurs de plus de 80 ans. C'est incroyable. Vous avez quasiment 10% de l'électorat. Voilà, donc un exemple. Je pourrais en prendre d'autres, mais vous avez
Allez-y, parce que sur les échantillons, c'est important quand même. Puisqu'on dit toujours sur un échantillon représentatif de la France et des gens en âge de voter, etc. Donc ils sont finalement déjà pas très représentatifs pour au moins les vieux électeurs.
Voilà. Vous avez une catégorie qui aujourd'hui est évidemment une catégorie très importante, ce sont les retraités. Eh bien, les retraités sont assez mal reconstitués. Parce que les retraités de la France d'aujourd'hui, de l'élection de 2017, ce sont d'abord et avant tout des retraités des catégories populaires. Or, vous avez un certain nombre d'échantillons qui inversent complètement les proportions et aboutissent au fait que ces retraités sont très largement composés d'anciens cadres, de diplômés, alors qu'on est dans des générations où on ne faisait pas, comme aujourd'hui, des études longues, des études supérieures, etc. Donc vous avez une catégorie des retraités, pourtant très importante. Hein, aujourd'hui, dans l'électorat, c'est, pour certaines élections, le tiers, parfois presque 40%
national,
des votes.
C'est 25, 27. Ouais.
Oui, au départ, ah, mais comme en plus, ils sont plus votants que la moyenne, ils finissent par... être probablement le groupe le plus décisif aujourd'hui sur le plan électoral, et bien ces retraités se retrouvent composés donc d'anciens cadres, sont des retraités qui ont fréquenté l'université, qui ont évidemment des opinions qui les distinguent très largement de ce que sont les retraités dans la réalité. Alors, selon moi, ça explique en partie la sous-estimation d'un certain nombre de phénomènes, je pense. Faudrait le vérifier. Là, c'est vraiment des hypothèses. J'ai pas travaillé sur ces sondages-là et sur ces gens-là. Je tiens à le préciser. Mais la sous-estimation, pourquoi pas, du Brexit, peut-être de certains courants qu'on qualifie de populistes ailleurs et chez nous. Parce que l'extrême droite a souvent été un peu sous-évaluée en France.
Elle a été plutôt surestimée aux trois dernières élections. Mais
oui, ça dépend.
Le FN.
Oui, sous-estimé, en tout cas difficilement estimé. Bon, ça peut expliquer des.
Et il y a des biais chez les jeunes aussi.
Alors, chez les jeunes, le problème, c'est la composition des échantillons. J'avais, par exemple, pour ma part, insisté sur ce point avant les dernières municipales. Il y a un problème de population. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, la plupart des instituts, mais je pense l'IFOP aussi, j'ai regardé les notices que vous déposez à la commission des sondages. Les sondeurs prennent la population française comme population de référence, alors que il serait plus judicieux de prendre la population des inscrits. Or, les inscrits ne sont pas identiques à la population française. Et puis, il serait, à mon avis, encore plus judicieux de prendre les votants. Et les votants sont encore différents des inscrits, et très différents de la population française, tout simplement parce qu'il y a des catégories sociales où on vote énormément, il y a des catégories sociales où on vote très peu. Or, c'est, sans rentrer dans les détails techniques, un problème, un enjeu majeur. Parce que ça revient à surreprésenter certaines catégories au détriment d'autres catégories. Je me doute que si on va trop loin dans l'explication, on arrive à des niveaux de technicité qui sont sans doute ennuyeux pour les auditeurs. Mais ça explique pourquoi l'image est mal cadrée. C'est-à-dire pourquoi les échantillons, même quand ils sont faits scrupuleusement, même quand ils sont construits rigoureusement, ne représentent pas, au final, l'électorat qui, le dimanche du vote, met son bulletin dans l'urne. D'où les écarts qu'on enregistre assez systématiquement, il faut bien le dire.
Frédéric Dabi, alors, je partage le constat, mais je veux rassurer Jean-Yves Dormagin, l'IFOP n'est pas à attendre dans son fauteuil une catastrophe sondagière. Systématiquement, nous avons pris en compte ces biais. Prenons l'âge. Oui, c'est vrai que dans les Access Panel, alors l'IFOP travaille avec Maxime Alsbilandi, qui est le plus grand panel de France, il y a presque 1 million de personnes. Et il y a des personnes très très âgées qui répondent à notre ligne, mais sincèrement, ils sont peut-être atypiques. Et c'est vrai que le poids des retraités est très important, même si les retraités ont voté massivement Nicolas Sarkozy en 2012. Il a perdu. Ces retraités ont voté massivement pour François, pour Jacques Chirac en 88 face à Mitterrand. Ils ont perdu, mais c'est vrai. L'IFOP fait, et c'est à mon avis le seul, pendant cette campagne électorale, nous avons fait des enquêtes présidentielles par téléphone pour voir comment ces retraités, ces 65 ans et plus, votaient par rapport aux enquêtes en ligne. Et c'est vrai qu'il y avait une sous-estimation du candidat de droite. Et nous l'avons corrigé pour notre enquête quotidienne. Ce que je vais essayer de passer comme message, c'est que nous travaillons. Les biais que décrit Jean-Yves Dormagin sont plutôt juste, mais là où je suis moins d'accord avec lui, c'est que les instituts, et l'IFOP en particulier, travaillent là-dessus, en faisant par exemple du mix mode. Également sur les inscrits. Alors là, les bras m'en tombent. Bien sûr qu'il y a une différence entre la structure nationale de la population et la structure des inscrits. Pour une enquête nationale, nous essayons de corriger ce biais en posant ce qu'on appelle des questions filtres. Êtes-vous inscrit sur liste électorale? Les gens peuvent, bien sûr, mentir. Êtes-vous inscrit dans votre commune de résidence? Êtes-vous de nationalité française? Et peu ou prou, nous arrivons à une structure plus juste. Mais ce que nous ne pouvons pas, ce que nous faisons à l'échelle locale, il y a des villes, et vous en parlez dans un papier du Monde ce soir, comme Toulouse, Montpellier, Bordeaux, où, bien sûr, faire une enquête locale et travailler sur les quotas INSEE, vous allez au plantage assuré, puisque ça ne prend pas en compte tous ces étudiants, toutes ces personnes jeunes. Et justement, nous travaillons sur la liste, sur nous faisons des quotas d'inscrits. Quand nous avons accès aux listes électorales, et par exemple à Toulouse, nous avons été, je crois, un des seuls instituts à donner la gauche perdante grâce à ces données plus fiables. Mais à l'échelle nationale, l'INSEE refuse de livrer à l'IFOP les données sur les inscrits, puisque nous en faisons un usage commercial. Nous sommes une entreprise privée, avec des salariés.
Jean-Louis, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Eh bien, écoutez, donc, c'est particulier. J'ai été sondé cet après-midi pour la première fois et par téléphone.
Il y en a, vous voyez.
C'était alors, agréable.
C'était très agréable, merci. Non, alors, ce qui m'a interpellé dans le sondage, c'est pas pour ça que j'appelle, hein, c'est qu'on me demande ce que mon entourage avait l'intention de voter. Alors ça, c'était quelque chose qui m'a surpris. Alors bien sûr, on m'a posé des questions sur moi-même, mais on m'a quand même posé la question sur l'entourage. Et puis, ma question était plus particulière, c'est quel est le lien que peuvent avoir les instituts de sondage avec les politiques eux-mêmes. Bien souvent, on entend parler du lien entre les journalistes et les politiques, hein, c'est souvent décrié. Je voudrais savoir quel est le lien qui peut exister. Est-ce qu'il y a des déjeuners ou des choses comme ça? Est-ce que les gens se connaissent? Est-ce que le panel ne peut pas être choisi en fonction de la personne qui demande le sondage? Voilà, moi, c'est ce que je voudrais savoir par rapport à tout ça.
Merci beaucoup, Jean-Louis, pour cette question. Frédéric Dabi.
Oui, nous connaissons, je connais des politiques avec lesquels je travaille. L'IFOP, notre maître mot, c'est l'indépendance. Nous travaillons pour tous les partis politiques de l'extrême gauche à la droite souverainiste. Nous ne travaillons pas avec le Front National, qui d'ailleurs ne nous commande pas d'enquête. Alors, il y a deux types de sondages. Les sondages privés, confidentiels, qui ne sont pas publiés. Là, on pourrait imaginer un soupçon. Un institut va faire plaisir avec un candidat aux législatives, par exemple, en disant « Coco, tu vas gagner ». Il y a quand même le verdict des urnes. Sur les sondages publiés, bien sûr, les instituts, et je pense que la plupart et tous sont honnêtes, il y a deux bornes. Il y a tout sondage publié électoral doit être remis à partir d'une notice à la commission des sondages qui vérifie la fiabilité du travail, notamment en termes d'échantillonnage et de vote antérieur. Et puis, il y a la saine concurrence entre instituts. Imaginez un institut proche de François Hollande qui avait travaillé avec lui pendant l'élection présidentielle. Je précise qu'il ne faut pas travailler avec François Hollande pendant l'élection présidentielle, mais beaucoup d'autres ont travaillé, qui voudrait, je dirais, sous-évaluer sa baisse dans les enquêtes de popularité, se montrer un peu plus bienveillant. On a vu quand même une vraie homogénéité entre tous les instituts depuis ces 5 dernières années sur une impopularité historique, très peu de rebonds, sauf à des moments spécifiques du quinquennat. Donc il y a des relations avec les politiques, mais elles restent uniquement professionnelles.
Vous voulez dire un mot là-dessus, Jean-Yves Dormagin ?
Non, pas particulièrement. Je pense que l'enjeu est bon. Il y a bien évidemment tout ce travail pour les élus, pour les collectivités, etc. Il y a surtout le lien avec les médias et l'usage qu'en font ensuite les journalistes. Alors on voit bien que certains sondages sont présentés ou organisés de manière à permettre à des médias plus orientés politiquement à droite ou à gauche de les reprendre dans un sens qui convient mieux à leur public. Bon, c'est suffirait de faire une revue de presse comparée. Alors, ce qui est intéressant quand même peut-être à expliquer aux auditeurs, c'est que les enquêtes sont redressées. Dit très simplement, c'est-à-dire que les résultats qui sont publiés ne sont pas ceux qui sont enregistrés sur l'échantillon, mais ce sont ceux qui sont produits à partir de pondérations. Précisément parce que les échantillons ne sont pas représentatifs, d'ailleurs, hein, puisque un échantillon qui serait parfaitement représentatif n'aurait aucune raison d'être redressé.
Les échantillons nationaux sont très très peu redressés, désormais. Et je vous invite à aller sur le site de la commission des sondages.
Alors, finissez le raisonnement avant de prendre en compte la remarque.
Ils le sont relativement peu, mais enfin, ils sont quand même redressés. Il y a plusieurs scénarios de redressement. Parce qu'il n'y a pas une règle et une variable qui s'impose pour le redressement. Ne serait-ce que, par exemple, si on prend les votes, on peut reprendre soit le vote à la présidentielle, aux deux tours de la présidentielle, au régional. Tout ça peut paraître très technique, mais ça aboutit au fait très concret que si on prend un candidat comme Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, je pense que dans la plupart des sondages, on l'a entre 17 et 21. Et là, c'est le sondeur qui choisit. C'est-à-dire qu'il choisit si...
Non, puisqu'il y a des nouvelles instructions de la commission des sondages qui datent maintenant d'il y a, je crois, 5 ans, qui
oblige, et on respecte cette obligation, oblige les sondeurs à appliquer les mêmes clés de redressement d'une élection à l'autre, d'une vague d'enquête à l'autre, et par exemple de choisir une colonne, alors on est très technique, une colonne de redressement, et s'y tenir. L'IFOP, par exemple, choisit le vote antérieur à la présidentielle sur la base des certains d'aller voter. Il y a par ailleurs une liberté des sondeurs de moduler à la marge, il faut qu'un total fasse 100, sur d'autres critères, la sûreté du choix, la certitude d'aller voter. Mais vraiment, fermons la boîte à fantasmes sur des candidats qui sortent en route à 10.
C'est une boîte à outils, là, oui, pas à fantasmes. Voilà, on voudrait savoir comment ça marche.
Oui, on est tout à fait d'accord ça. Pour dire ça.
N'importe quel auditeur juste après cette émission, sur le site de la commission des sondages pour regarder les notices et verra que les instituts n'utilisent pas les mêmes variables de pondération.
Mais il verra surtout que...
Et d'ailleurs, pourquoi pas ? C'est-à-dire que je pense que c'est normal qu'il y ait un minimum de liberté méthodologique et si on pense qu'il vaut mieux pondérer en utilisant les régionales, ce qui change tout. Hein, quand on regarde les votes constitués aux régionales, c'est pas vrai. Ils sont quand même assez éloignés, j'ai été les regarder, de la réalité. Il y a 7 ou 8 points d'écart sur le vote socialiste, 7 ou 8 points sur le vote Front National.
Donc vous dites qu'il y a une dimension...
Si je prends par exemple le vote au régional pour redresser les études, je suis absolument certain que je bouge les intentions de vote. Mmh. J'en suis certain, puisque l'écart, pour le coup, là, ici, est très élevé. Alors, donc le choix d'utiliser ce vote ou de ne pas l'utiliser a forcément un effet sur les intentions de vote mesurées.
Je voudrais répondre.
C'est technique, mais c'est passionnant.
Non, hein. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est très bien. C'est intéressant qu'on ait ce débat. Le redressement sur les catégories sociodémographiques est absolument marginal, puisque les échantillons, les objectifs, une enquête de 1000 personnes, on doit faire 521 femmes, 479 hommes, etc. Sur les 5 critères de construction des quotas sociodémographiques, les redressements sont marginaux. Sur la présidentielle de 2012, et c'est là où il y a une vraie rupture depuis le passage des enquêtes par téléphone aux enquêtes en ligne, le redressement est également marginal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vous invite à aller sur le site de la commission, je le dis de mémoire, j'ai travaillé sur les données à l'heure du déjeuner. Marine Le Pen, sur son vote antérieur présidentiel 2012, sort à 19,3. Elle a fait 18,3, elle a un petit peu surdéclaré. François Hollande, de mémoire, sort à 27,2, il a fait 28. On est sur des écarts extrêmement, extrêmement marginaux. Rien à voir avec ce qu'on mesurait à l'époque de Jean-Marie Le Pen, où je donne un exemple toujours... qui m'a beaucoup marqué. Quelques jours après le 21 avril 2002, je travaillais à l'Institut CSA. Libération commande une enquête à CSA d'intention de vote de second tour sur la base d'un vote unique, pas question de régional, de présidentiel précédent, du résultat du vote qui s'était produit deux jours avant. Jean-Marie Le Pen en brut, par téléphone, parce qu'il y avait ce non-dit, sortait à 6%. Et là, bien sûr, il y avait des distorsions extrêmement importantes. Pour autant, il y a une liberté des sondeurs, qui est une liberté professionnelle, liée à la connaissance de l'histoire électorale, qui va, au-delà du vote antérieur, regarder ce qu'on appelle les matrices de transfert, que deviennent les électorats de 2012, et toute une série de critères qui sont également contrôlés. C'est un travail d'une société privée qui est extrêmement contrôlé.
Annie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Voilà, moi je suis contre les sondages en fait, hein. Contre les sondages, et en tout cas au moins un mois ou un mois et demi avant. Je trouve que ça modifie, j'ai l'impression que ça modifie quand même le langage des journalistes, je m'excuse pour vous.
Non, allez-y.
Je le pense aussi quand même. Aussitôt que Mélenchon a commencé à monter, alors là il y avait des émissions, il y en avait 2-3 dans la journée alors qu'avant on n'en parlait pas. Alors, je trouve que c'est pas normal.
On en parlait moins, effectivement, vous avez raison. Après la vague de sondages, effectivement.
Aussitôt qu'il s'est trouvé en position de peut-être passer au deuxième tour, alors là, les chiens de garde, ils se sont déchaînés.
Merci Annie pour cette question franche. Les sondages, nous disait Annie, devraient être interdits. Qu'en pensez-vous, Jean-Yves Dormagin ?
Je pense qu'on peut pas interdire les sondages. Alors avant, ils étaient interdits une semaine avant l'élection. Est-ce qu'on a gagné quelque chose à les autoriser ? On peut en discuter. C'est vrai que l'élection présidentielle n'a jamais autant ressemblé à une course de petits chevaux que cette année, et l'année, l'élection précédente l'était déjà un peu plus que celle d'avant, c'est-à-dire que les Rolling, c'est-à-dire ces sondages qui sont produits quotidiennement et qui permettent un peu, comme dans une compétition sportive, de suivre l'évolution
minute par minute,
en tout cas jour par jour, des candidats et de commenter des déplacements, ce qui est pathétique, hein, d'un demi-point ou d'un point, alors qu'on sait
mais
très bien
faux,
que ce sont
en
des
plus,
technologies.
Scientifiquement.
Absolument.
Il ne s'est rien passé en 24 heures.
Je ne suis pas d'accord.
D'ailleurs, il est.
Mais le demi-point, je ne sais pas comment vous y arrivez.
Il est de toute façon un peu paradoxal d'annoncer 3 points. Encore une fois à tort d'ailleurs, hein, parce que ça ne repose sur aucune théorie mathématique, mais d'annoncer 3 points de marge, ça ne repose sur aucune théorie mathématique s'agissant de
la
quota.
La marge d'erreur, c'est...
Mais oui, parce que c'est une légende, un mythe.
Oui, c'est ça, c'est une
c'est-à-dire
légende.
C'est-à-dire que c'est vrai en théorie probabiliste sur des échantillons tirés au sort, qui seraient parfaitement représentatifs pour le coup, et sur lesquels on pourrait dire, s'ils étaient parfaitement représentatifs et tirés au sort, qu'il y a 3 points de marge d'erreur. Mais là, les 3 points de marge d'erreur, c'est une coutume, c'est une espèce de mythe un peu quasi magique. Et qui d'ailleurs.
Qui repose sur rien, parce que c'est jamais 3 points. Ça peut être 2 points, ça peut être 4 points. Je le répète, c'est lié au pourcentage et à la taille d'échantillon.
Mais là, Jean-Yves Dormagin vient de dire qu'il n'y a aucune réalité mathématique à la chose.
Mais je ne suis pas d'accord, puisque qu'est-ce que c'est que, en fait, un rolling? C'est justement. Briser une des critiques que je trouvais très justifiée vis-à-vis des sondages qui s'apparentaient, comme l'a dit votre auditeur tout à l'heure, Monsieur Demorand, à des photos, c'est-à-dire la discontinuité. Vous voyez, à une certaine époque, des sondages faits tous les 15 jours et des candidats qui gagnaient 5 points, qui en perdaient 7. Et là, 5 points et 7 points ramenés au corps électoral, ça n'a aucun sens, puisque, contrairement à ce que l'on croit, l'opinion bouge peu.
Non, mais le demi-point du lundi au mardi, comment vous y arrivez, ça, sincèrement?
Justement, on n'est non pas sur une logique de photo floue, mais une logique de succession de photos qui permet
un film.
D'avoir les contours d'un film de la campagne. Et justement, ne regardez pas les
regardez pas les Rolling.
Un demi-point par jour, mais sortez le nez du rolling, mettez votre feuille, mettez le graphique à 1 mètre de vous et vous verrez les dynamiques de campagne. Benoît Hamon, au début de la campagne, après sa victoire à la primaire, est à 18%, Jean-Luc Mélenchon à 9%. Aujourd'hui, nous avons Hamon à 7,5%, Jean-Luc Mélenchon autour de 18%. On voit qu'il s'est passé des choses. On voit sur le rolling que justement, c'est peut-être...
Et le rolling, c'est le sondage quotidien.
C'est une enquête en continu qui permet de voir, de sortir de la course des petits chevaux pour voir les grands mouvements de la campagne. Ça avait plutôt très bien fonctionné en 2012 et aux européennes en 2014. J'espère que ça marchera également. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la course des petits chevaux, ce ne sont pas les sondeurs qui l'alimentent, c'est l'exploitation des sondages. Travailler sur un rolling n'empêche pas des journalistes de faire des reportages sur le terrain, ils en font, de travailler sur des grandes thématiques. Et dans le rolling, il n'y a bien sûr pas que le rapport de force électoral. Il y a des questions passionnantes sur le pronostic de victoire, sur les sujets qui ont marqué la campagne, sur l'évaluation de la meilleure campagne. Et justement, on parlait de la poussée de Jean-Luc Mélenchon, ce ne sont pas les sondages qui sont responsables de la poussée, c'est lui-même, c'est son meeting réussi de la marche sur la 6e République le 18 mars, c'est cette fameuse émission qui a fait 10 millions d'audience où
là,
on a vu...
Paf, un demi-point là, vous le notez du jour au lendemain.
Mais
là.
Justement, le rolling permet de voir qu'il y a parfois des événements qui n'impactent absolument pas. La rafle du Veldiv, ça n'a pas bougé sur les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen, et il y a au contraire des événements qui impactent directement les Français. Exemple, Jean-Luc Mélenchon. Contre-exemple, François Hollande en 2012, au lendemain du meeting du Bourget, tout le monde dit « Ah ben c'est formidable ce meeting, il a fendu l'armure, il a rassemblé la famille socialiste. » Rien ne se passe sur le rolling pendant environ 3 jours.
Il a fini par gagner.
Le quatrième jour, le pronostic s'envole. Et c'est au bout d'une semaine qu'il progresse en intention de vote. S'il y a une chose à retenir des rolling, c'est que ça montre qu'il y a souvent un temps de digestion des événements de l'actualité par les Français.
Jean-Yves Dormagin, moi j'en sais toujours pas plus sur le demi-point du jour au lendemain, mais bon.
Bah c'est une évolution.
Non, mais c'est toujours surprenant parce que cet argument que vous utilisez en tant que sondeur, finalement, revient à dire que les sondages ont peu d'impact ou pas tellement d'impact, quand ça vous arrange de le dire, mais en fait l'impact il
nous
est
considérable. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un impact.
L'impact il est considérable.
Nous ne sommes pas les seuls.
Il est considérable pourquoi? Parce que il modifie. C'est peut-être même ça son effet le plus palpable et le plus décisif. Il modifie le cadrage qui est ensuite opéré dans les médias sur les différents candidats. C'est-à-dire que tous les commentaires en rafale qui suivent ces publications sont modifiés par le résultat du sondage. De manière d'ailleurs absolument évidente, c'est-à-dire que dès que Jean-Luc Mélenchon progresse, par exemple, dans la campagne, il fait une extraordinaire campagne. Il a changé. Ce n'est plus le même. C'est tout le commentaire qu'on entend, etc.
Faire une analyse politique sur sa manière de s'exprimer le 20 mars, où on a vu que ce n'était pas le Jean-Luc Mélenchon de 2012.
Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de campagne électorale. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas des événements qui modifient. Il s'agit de dire que les sondages en font partie intégrante, qu'ils y occupent une place essentielle, parce qu'ils conditionnent les commentaires, ne serait-ce que l'importance, la place qu'on accorde aux différents candidats. Vous avez eu pendant plusieurs jours, sur les chaînes d'information en continu, dans les grands médias, des titres sur Jean-Luc Mélenchon, aussi parce qu'il progressait dans les sondages, alors évidemment avec un effet de renforcement circulaire, c'est-à-dire que plus on parle de lui, plus il progresse dans les sondages, plus il siphonne Benoît Hamon, qui lui s'effondre, et qui est présenté comme faisant une mauvaise campagne, son meeting est présenté comme un meeting d'adieu, comme un enterrement,
le
etc. C'est-à-dire que, effectivement, très probablement, enfin, il est possible, non, je vais pas me prendre ce genre de risque, mais il est possible qu'il fasse encore moins, d'ailleurs, que ce que lui donnent les sondages, puisque progressivement, le vote Benoît Hamon semble de plus en plus inutile, mais il est rendu aussi inutile. Que se passe serait-il ? Faisons cet effort intellectuel presque impossible à l'ère de la sondomanie généralisée. Je veux dire, que se passerait-il si on allait voter demain sans avoir aucune idée des rapports de force entre les différents candidats ? On serait obligé de s'intéresser à autre chose. On serait obligé, parce qu'on n'aurait pas le choix. Alors, on serait obligé d'imaginer, on fantasmerait sans doute, mais pour une part, on s'intéresserait aussi un peu à leur programme.
Mon cher
alors qu'aujourd'hui, vous l'affirme, Frédéric, je vous l'affirme, ces enquêtes, je ne suis pas con, évidemment, il ne faut pas les interdire, ça n'a aucun sens. Il y en aurait plein, ça leur donnerait encore plus de valeur. Enfin, ils circuleraient sous le monde.
Oui,
vous imaginez le fantasme.
Ça serait
leur rendre un service. Ça serait la prohibition des sondages. Interdire la publication, d'ailleurs, c'est leur donner évidemment une importance considérable. Mais je pense qu'ils contribuent à leur manière à une forme de storytellisation de la vie politique, de transformation en course de petits chevaux de cette compétition, et quelque part, du coup, à une forme de dépolitisation de la politique. Il y a beaucoup de gens qui vont aller voter dimanche qui n'ont aucune idée des différences programmatiques qui opposent, je vous l'assure.
Je viens de faire des entretiens qui n'ont que très peu d'idées
sur les différences programmatiques qui pourtant séparent de manière assez importante Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.
Alors, Frédéric Dabi, et puis je voudrais que vous donniez aux auditeurs de France Inter, qui vont peut-être être des électeurs aussi, un conseil chacun pour bien lire ce qu'on va avoir comme sondage d'ici au premier tour.
Donc, je partage quand même des choses de ce que vous venez de dire. Il y a un problème d'usage du sondage, d'hypertrophie de l'usage du sondage. Mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des pays merveilleux où il n'y a pas de sondage pendant les campagnes électorales. Ce sont des régimes autoritaires. Récemment, je crois, en Tunisie, interdiction des sondages pendant la campagne électorale. Que vous le vouliez ou pas, le sondage est un objet consubstantiel d'une campagne électorale, d'un régime démocratique. Mais il y a un problème d'usage, d'hypertrophie, du sondage. Si je peux donner un conseil, sortez de la course des petits chevaux, allez sur le site internet des instituts où vous avez tous les sondages, où vous allez voir des choses extrêmement riches et vous faire une idée par vous-même.
Jean-Yves Dormagin, un conseil pour aider les auditeurs et électeurs dans cette forêt de sondages qui va encore exister dans les heures qui viennent avant le premier tour?
Moi, je leur conseille de ne pas être trop stratège. Parce que les stratégies produisent des effets pervers. Et que les calculs d'anticipation, par anticipation, tout simplement...
Je vais voter l'un pour éviter l'autre, comme ça au deuxième tour, il y aura un truc.
On se souvient, pour ceux qui l'ont vécu tous, avec un souvenir aigu du 21 avril 2002. Où d'une certaine manière, les électeurs ont voté en fonction des sondages. Et ont produit un effet... D'une certaine manière, si.
D'une certaine manière, mais pas complètement.
Allez-y, il nous reste peu de temps.
J'ai dit d'une certaine manière. Et du coup, on finit par produire un effet totalement opposé à celui qu'ils attendaient. Donc moi, je leur conseille de voter pour le candidat dont ils se sentent le plus proche, sur le fond, sur les idées, sur le projet, voire sur la personnalité, et d'oublier un tout petit peu le temps du vote. Ces sondages.
On en reste là. Jean-Yves Dormagin, merci. Professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Énormément de questions au standard ce soir. Un débat technique, mais très important à avoir sur le fond, vu effectivement la place qu'ont pris les sondages. Même si sur France Inter, pendant toute cette campagne, on a eu pour règle de ne pas tous les donner, mais de se concentrer sur un certain nombre d'enquêtes et d'en faire le moins possible en la matière. Il est 20h.